en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci beaucoup, chère madame, messieurs, merci beaucoup, monsieur le secrétaire. Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Merci, mesdames et messieurs, de votre invitation et de votre présence. J'étais très touchée, madame Novitsky, que vous ayez fait mention de mon récent livre, qui est une biographie sous forme d'entretien, et que j'intitule « Je me voyage ». Qui, évidemment, est une formule qui bouscule à vos oreilles et aux miennes, évidemment, la langue française. Ce n'est pas seulement pour assumer l'étrangère que je suis en ces temps de détresse, mais surtout pour inviter le lecteur que vous êtes, que nous sommes tous, un lecteur déplacé, délocalisé, transporté d'un bout à l'autre de la planète, l'inviter à traverser sans cesse et sans crainte ses propres frontières. Il ne suffit pas de déplacer et de dépasser les frontières des disciplines, des États ou des nations, mais il importe, et ce sera un des messages que je voudrais faire passer ce soir, de dépasser nos propres frontières. Il faudrait que chacun de nous, qu'elle se voyage. De ma Bulgarie natale au bouillonnement de Saint-Germain-des-Prés, j'ai essayé de donner quelques éléments dans ce livre, de New York à Pékin aussi, ma vie d'amoureuse et de maman, l'expérience littéraire, intérieure, féministe, la dépression nationale, le désir de France. Je me voyage dans la chair des mots. Et je m'aperçois, une fois cette biographie terminée, que c'est l'Europe qui est le personnage principal de mon travail, peut-être depuis toujours, mais tout particulièrement de ce livre. Et la question, dès lors, se pose, quelle Europe, quelle identité, quelle langue et quelle culture ? En ouvrant cette question de l'Europe dans le contexte d'aujourd'hui, un contexte anxiogène, vous le savez, aussi bien dans le cadre de la campagne présidentielle, mais dans l'Europe tout entière, nous ne pouvons ne pas évoquer les nationalismes, les intégrismes, les différentes frontières plus ou moins barbelées. Mais il me semble qu'il ne suffit pas de montrer ces menaces. Il importe de poser face à elles, face à ces dangers, notre offre européenne. Qu'est-ce que nous proposons? Quels sont nos bénéfices, nos projets, nos limites aussi, nos fragilités? Je vais essayer d'exposer cette réflexion en trois temps. Le premier, c'est le message universaliste de cet humanisme et à côté de lui et avec lui la diversité, donc humanisme avec diversité et diversité avec l'humanisme. Le deuxième point sera de réévaluer la complexité de l'héritage religieux de l'Europe, dont on parle peu ou de manière disparate, clivée et sans vision globale. Et en troisième point, d'aborder l'islam politique qui est désormais à l'intérieur de nos frontières et pas à l'extérieur de l'Europe. Et d'interroger ce que Kant appelait le mal radical, c'est-à-dire les attentats, l'atteinte à la vie humaine que conduisent ces intégrismes. Donc, d'abord, l'Europe universaliste et diversifiée. À l'encontre du culte moderne de l'identité, tout le monde se réclame « je suis français ou française, je suis américain, je suis arabe, je suis juif, je suis homosexuel, je suis féministe ». Il y a un culte de l'identité dans notre monde contemporain. Je prétends qu'à l'encontre de ce culte, au nom duquel on continue de se livrer des guerres liberticides et mortifères, eh bien, la culture européenne, qui fut le berceau de la quête identitaire, eh bien, elle n'a pas cessé de dévoiler aussi bien la futilité de ce culte que son possible, bien qu'interminable, dépassement. Il existe bien une identité, mais celle-ci est une interrogation permanente, infiniment évolutive. Et je crois qu'un des ouvrages de M. Pitt était précisément cette complexité, cette traversée des frontières dans sa propre identité. Il s'agit donc d'un paradoxe qui sous-tend la fragilité européenne, car on peut très bien constater combien cette ambiguïté, à la fois il y a une identité et en même temps elle est diverse, rend les choses fragiles et difficilement gérables. Donc ce paradoxe sous-tend aussi bien la fragilité que la vigoureuse subtilité, je dirais, du projet européen et du destin culturel de l'Europe. L'Europe n'existe-t-elle pas avant tout parce qu'il y a une culture européenne, bien que celle-ci soit absente du traité de Maastricht? C'est un paradoxe qu'on ne cessera de souligner. Il n'y a pas de culture européenne, il n'y a pas de projet strictement européen dans le projet de Maastricht. Eh bien, c'est un sentiment néanmoins qui perdure. Nous avons l'impression que l'Europe n'existe que parce qu'il y a une culture européenne dont on peut décliner quelques repères, je ne dirais que quelques-uns parce que la liste est interminable: le socle biblique, les tables de la loi, le buisson ardent, le Parthénon, le miracle grec, les présocratiques, Aristote, Platon, toute cette ribambelle de noms et de monuments que je vais évoquer sont présents dans nos éducations, dans nos écoles, qu'il s'agisse de la Bulgarie, de la Pologne, de l'Espagne ou de la France. Le temps des cathédrales, Notre-Dame, les Lumières et les droits de l'homme, le Colisée, Dante, Shakespeare, le Louvre, Montaigne, Goethe, Mozart, etc. Impossible évidemment de les énumérer. Question: que reste-t-il de ces sédimentations après tant de conflits, tant de guerres mondiales, la Shoah, le Goulag auquel il faut aussi ajouter l'actuelle banalisation spectaculaire. On est tous internautes et on réfléchit de manière plus ou moins automatique ensemble. Et un ensemble qui d'ailleurs est disloqué par des égos plus ou moins surdimensionnés. Une enquête d'Ipsos a donné des résultats très nuancés sur l'impression qu'ont les différents peuples concernant l'identité européenne. Selon la plupart, 49%, la culture européenne serait un ensemble de patrimoines nationaux. Pour les Français, ce sont les lieux qu'on fréquente, l'architecture. Pour les Allemands, le mode de vie, etc. Donc c'est un ensemble de patrimoines nationaux. Donc il y a une identité, mais elle est avant tout nationale. Et 45% disent qu'il y a quand même une communauté de cette culture sans qu'on puisse dire de quoi s'agit-il. Cette enquête date déjà depuis quelques années, mais aujourd'hui encore, il me semble que vous serez d'accord pour constater que l'Europe, qu'elle soit celle des chômeurs français, portugais ou grecs, se sent européenne. Les gens disent qu'ils se sentent européens sans pouvoir évidemment préciser à quoi correspond ce sentiment européen. Donc je ne prétends pas vous donner une définition. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont aussi des eurosceptiques, même si on s'efforce de ne pas l'être. Je vais essayer simplement d'ouvrir quelques pistes de réflexion. Donc, je reprends l'idée que j'ai suggérée tout à l'heure. En contrepoint au culte moderne de l'identité, j'avance que la culture européenne se définit par une quête identitaire indéfiniment déconstructible, questionnante donc et ouverte. Et je renvoie souvent à une phrase de Nietzsche qui écrit que notre obligation morale, mais aussi politique, mais aussi identitaire, aujourd'hui, c'est de mettre un grand point d'interrogation à l'endroit du plus grand sérieux. Grand point d'interrogation à l'endroit du plus grand sérieux. Et c'est, je crois, l'essentiel de la culture européenne. Cette question de l'identité interrogeable, l'identité toujours questionnante et de ce point de vue, et à cause de cela, évolutive. Elle s'est imposée à moi dans ma longue expérience d'européenne, lorsque j'ai quitté ma Bulgarie natale pour finir ma thèse de doctorat à Paris, avec une bourse accordée par le gouvernement de De Gaulle, cet Européen sceptique que vous connaissez tous, mais visionnaire confirmé, et qui s'adressait déjà à une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Il donnait des bourses pour les jeunes qui parlaient le français, on les donnait à des vieux qui ne parlaient pas le français, très peu partaient, et il se trouve, pour différentes raisons que je précise parfois dans mes romans, que j'ai pu traverser ce rideau de fer qui commençait à devenir poreux. À cette époque, nul ne pouvait, on était en 65, nul ne pouvait imaginer que la Bulgarie deviendrait membre de l'Union européenne. Mais l'Union allait se forger, comme, malgré toutes les difficultés que j'ai évoquées rapidement, comme le premier espace terrestre réel de cette paix universelle dont rêvait Emmanuel Kant. Même si nous savons qu'avec la Hongrie, les choses deviennent plus difficiles. Mais néanmoins, nous avons construit cette paix dont beaucoup d'autres continents pouvaient être jaloux. Et ceci s'est produit parce que nous avons su créer une zone d'échange de marchandises, mais aussi d'idées, même si ça reste encore à s'enraciner dans l'esprit des peuples et en confortant la souveraineté des peuples en même temps que leur capacité d'échanger. Les différents substrats de la civilisation européenne, juifs, gréco-romains et depuis 2000 ans chrétiens, puis leur enfant rebelle qu'est l'humanisme, sans oublier la présence arabo-musulmane de plus en plus forte, ainsi que les spécificités nationales. Du 49% disent « mais l'Europe, c'est un ensemble de cultures nationales ». Eh bien, tout ça ne fait pas de la culture européenne, selon moi, seulement un beau manteau d'arlequin, ni un hideux broyeur d'étrangeté victimaire, bien que ces extrêmes n'aient pas manqué par le passé et que ce broyage d'identité hante toujours nos esprits aujourd'hui comme des redoutables revenants des latences xénophobes et antisémites du vieux continent. Ça existe toujours. Je pense cependant, et je suis de ceux qui travaillent pour que ce sentiment soit compris et qu'il s'enracine, qu'il existe une cohérence de ces diversités qui s'est cristallisée et pour la seule et unique fois au monde s'est affirmée une identité tout en ouvrant cette identité tout en ouvrant à son propre examen critique et à l'infini des autres cultures. C'est ça le nous européen. Nous avons cette identité plurielle, nous savons la mettre en question. Et nous vous disons à vous autres du monde global, faites pareil et essayons de sortir de la banalité en mettant en question nos identités et en pouvant nous rencontrer dans cet échange. Et donc, malgré les crimes de l'Europe, colonisation ou Shoah qu'on nous renvoie souvent et que nous sommes peut-être les premiers à mettre en question et à réévaluer, il est possible d'assumer le patrimoine européen en le repensant comme justement un antidote aux crispations identitaires d'ici et d'ailleurs. Une spécificité identitaire donc, telle que je suis en train de la dessiner devant nous, devant vous, qui me semble être à contre-courant de ce culte de l'identité qui submerge le monde, qui hante certains pays européens aussi, surtout en situation de crise économique et sociale. Et cet héritage culturel de mise en question et de diversité, c'est ce qu'Europe offre au monde aussi. Alors, pour que cette universalité dans la diversité puisse vous paraître faisable et concrétisée, je ferai appel à la langue française en tant qu'élément sacré de notre existence européenne et tout particulièrement de l'esprit français et au multilinguisme. Je me définis souvent, et Madame Novitski l'a dit tout à l'heure, comme citoyenne européenne d'origine bulgare, considérée comme une intellectuelle cosmopolite. Et c'est avec un sentiment de dette et de fierté que je porte dans notre monde désormais globalisé les couleurs de la République française. Mais dans « Étrangers à nous-mêmes », qui est un de mes livres les plus traduits, j'écrivais ceci que je voudrais partager avec vous ce soir. Je me permets de me citer. « Nulle part, disais-je, on n'est plus étranger qu'en France. » Et puis j'ajoutais « Mais nulle part, on n'est mieux étranger qu'en France. » Pourquoi ? Parce que, au-delà de l'ambiguïté de l'universalisme dont je parlais tout à l'heure, il y a des idées générales, il y a cet humanisme des Lumières qui suit le gréco-judéo-christianisme, mais il y a aussi la diversité. Et dans l'interrogation, nous pouvons construire un chemin pour rencontrer la globalisation. Eh bien, parce qu'au-delà donc de l'ambiguïté de cet universalisme, la tradition française de l'intellectuel, du questionnement et l'importance du forum politique permettent à chaque fois de relancer le débat intellectuel et politique plus dramatiquement et plus lucidement qu'ailleurs. Je me rends compte aussi que, par exemple, je suis dans un premier temps mieux accueillie aux États-Unis et plus invitée dans les familles américaines. Mais le débat démocratique qui existe en France avec la pagaille mais aussi la lucidité qu'ils produisent me manque aux États-Unis parce qu'on n'arrive pas, je pense, avec cet esprit français à des fermetures qu'on voit aussi aujourd'hui aux États-Unis mais aussi dans d'autres pays. Donc ce véritable psychodrame que peut être le débat politique français est aussi un antidote à la dépression nationale que je sens et qui existe. Et nous avons cela. D'un côté, la dépression nationale, on n'est plus la France qui était et que nous aimerions être. La phase maniaque de cette dépression, les psychanalystes le savent, c'est le nationalisme et le populisme. Non, on va se durcir et on va leur montrer ce que nous sommes. Eh bien, la seule façon de ne pas sombrer dans les dépressions ou dans sa phase maniaque, qui est le nationalisme, le populisme, c'est le débat public. C'est cette mise en question pour laquelle nous avons et une tradition, et les sciences humaines, et les arts et les lettres, et cet esprit du peuple, qui est un vrai esprit national, de mettre en question les acquis, les identités. Et je rends donc hommage à la culture française qui m'a adoptée et qui n'est jamais plus française que quand elle se met en question, jusqu'à rire d'elle-même. J'étais invitée à un forum sur la diversité culturelle à Florence et je l'avais intitulé « Diversité, c'est ma devise ». C'est une phrase que j'ai tirée de La Fontaine, pas du Corbeau et du Renard ou d'autres fables que vous connaissez, mais d'un texte moins connu qui s'appelle « Le pâté d'anguille », qui fait allusion à la diversité culinaire des Français, au fait qu'il y a 365 fromages et peut-être encore plus de plats. Mais il faisait dans ce texte une règle générale, que la diversité fait partie de la culture française. Et donc c'est ça qui est notre spécificité, beaucoup plus que le durcissement identitaire. Ceci me semble être quelque chose d'extrêmement important qui est propre à la culture française, parce que je prétends qu'en France, cette idée européenne du questionnement de la diversité s'est cristallisée de la manière la plus claire, la plus frappante, non seulement la plus cartésienne, mais souvent la plus sensible grâce à l'extraordinaire éclosion de la littérature française. Dans cet ordre d'idées, la culture européenne porte, outre la question de la question avec Nietzsche, aussi la problématique de la singularité. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons un grand philosophe auquel je me réfère souvent, qui est un grand philosophe européen dont on ne parle pas assez, sauf les grands médiévistes le connaissent, Dan Scott, qui disait que la vérité n'est pas dans les idées, elle n'est pas non plus dans la matière obscure, les idées sont abstraites, la matière est obscure, elle est dans cet homme-ci, cette femme-là, le démonstratif, ecce. Il appelait ça l'ecceitas, this en anglais. Et c'est traduit plus, de manière plus courante, la singularité. Je pense que le point culminant des droits de l'homme est le respect de la singularité. Des communautés, bien sûr, qui respectent les diversités, mais aussi la singularité de la personne. Et c'est cette idée est aussi quelque chose d'extrêmement spécifique à la culture européenne, culture française, que nous oublions parfois, mais qui existe dans nos bibliothèques, dans nos écoles et dans l'art et la littérature qui nous entourent, mais aussi, heureusement, de temps en temps, se faufile dans les débats publics. Dans ce contexte, le rôle de la langue nationale est crucial. Dans l'histoire française, je pense, et j'ai défendu cela dans un avis que j'ai présenté au Conseil économique et social, dans l'histoire française, des liens étroits se sont forgés entre les diverses expressions culturelles, art, goût, mentalité, d'une part, et la langue française, d'autre part. Un alliage qui constitue la langue et la littérature comme un équivalent ou une substitution du sacré. Les Français peuvent être catholiques, protestants ou maintenant orientés vers l'agnosticisme ou l'athéisme, mais en même temps, ils considèrent que c'est la langue qui cristallise leur être au monde, leur intimité. Leur expression la plus spécifique passe par la langue française. Il en résulte, à travers la planète, et cette notion est assez perçue par les étrangers, il en résulte à travers la planète un désir pour la langue française. Et j'ai eu l'occasion de le trouver dans mes divers voyages, que ce soit en Chine ou en Amérique latine ou ailleurs. La langue française perçue comme une manière d'être au monde qui va vous libérer, va vous restituer votre singularité, à vous aussi, chinois, bulgare, polonais, qui allez l'apprendre. Et que toutes les langues le sont aussi, porteurs de ces singularités. Mais la conscience de ce fait que la langue cristallise la singularité et le lieu où la singularité humaine et la bataille pour la liberté de la singularité, cette notion-là s'est cristallisée, me semble-t-il, dans la langue française. Il nous revient donc d'assumer et en même temps de problématiser cet héritage culturel français pour impulser une dynamique politique à la francophonie et l'adapter au monde moderne, pour faire mieux connaître et partager cette expérience française sous l'angle de l'identité linguistique, consubstantielle à la fierté nationale, mais aussi contribuer à ouvrir l'hexagone à la diversité mondiale et en même temps, à l'intérieur de la France, tenir à l'apprentissage du français, aussi bien dans les quartiers défavorisés que parmi tous nos jeunes barricadés derrière leur écran et qui souvent traduisent le français en SMS, mais en perdent la richesse. Dans cette apologie que je fais de la langue comme substitut du sacré, je n'oublie pas quelque chose qui me paraît un poids que nous sommes en train de porter aujourd'hui, à savoir la dépression nationale. Il faudrait d'abord reconnaître que aussi bien la nation que la liberté sont des sujets, des problématiques qui se sont construites dans la culture européenne. Je n'entrerai pas dans ces détails, je les déployais dans d'autres livres, mais il suffit de se pencher sur la philosophie des Lumières pour voir comment l'idée de nation est devenue un contrepoids à la féodalité et à l'Ancien Régime, et combien les soldats de la République et de Napoléon les ont portés à travers l'Europe et le monde. Donc, il faut reconnaître aussi que la nation subit parfois, y compris dans une misinterprétation des idées de Lumière, une humiliation qui conduit ceux qui se sentent atteints par cette sous-estimation du fait national à se durcir dans des attitudes revanchardes. Et je pense que le fait national est une problématique qu'il nous revient de remettre en éclairage, en considération et d'en connaître dans les lycées, dans les écoles, dans les universités, aussi bien l'histoire que le possible dépassement. À côté de cette question de la nation que j'ouvre devant vous et sur laquelle on peut reparler tout à l'heure, il y a aussi la question de la liberté, qui est elle aussi une idée européenne issue de cet héritage gréco-judéo-chrétien, mais surtout accentuée par, évidemment, les idées du XVIIIe siècle et qu'on retrouve développée de manière magistrale dans les travaux de Kant que je voudrais aborder tout à l'heure quand je vous parlerai de la confrontation entre cette idée de liberté avec certaines formes de radicalisation qui conduisent à la suppression de l'idée de liberté, qu'il s'agisse des femmes ou de la liberté humaine face à la mort. Deux modèles de civilisation, néanmoins, existent aujourd'hui et s'accompagnent, parfois se contredisent, parfois sont en compétition dans le monde globalisé. Et nous les apercevons de manière plus claire depuis la chute du mur de Berlin. L'une, je dirais plus américaine, qui valorise la liberté de la libre entreprise, qui culmine dans l'adaptation à la production. C'est ce que Max Weber avait vu en parlant de l'esprit du capitalisme dans le protestantisme. Adaptation libre entreprise à la production, mais aussi au marketing et la finance virtuelle. L'autre modèle, plus ardent, on le trouve en Europe. Tous les deux sont issus de l'Europe, mais l'Europe continue à essayer de ne pas oublier ce second modèle, peut-être plus ardemment qu'ailleurs. Cet autre modèle valorise la liberté, non pas comme une adaptation, mais comme un recommencement de soi dans la rencontre avec les autres, comme une révélation. Et comme un Kant disait « autocommencement ». Reconstruction de soi, une sorte de renaissance de soi. Le social, la solidarité, sur le plan plus politique, bouscule l'esprit entrepreneurial et donc s'ajoute à l'idée de la libre entreprise. On voit combien ces deux modèles doivent être parallèles et se rencontrer et se soutenir. On voit combien il y a des situations où ils dominent l'un au détriment de l'autre. Je pense que cette question de la coexistence de ces deux modèles et de la place prédestinée, en quelque sorte, en raison de son histoire, de l'Europe, qui pourrait les rendre à la fois visibles, les interroger dans leur histoire et dans leur actualité, mais aussi essayer de les conjoindre, est extrêmement importante et doit faire partie de notre réflexion sur ce qu'est la culture européenne. Alors, en parlant de nation et de liberté, en mettant la langue comme le terrain alchimique presque dans lequel ces deux notions se cristallisent dans l'intimité de chacun, se déconstruisent ou se reconstruisent. Vous voyez que je glisse de la culture européenne comme une entité au ressort profond, inconscient de la crise existentielle et de l'intimité de chacun, dont témoigne le réveil des spiritualités et le fondamentalisme, et qui recoupe la très complexe crise des banlieues qui menace la laïcité française. À cet égard, je vais soutenir qu'au carrefour des trois monothéismes, l'Europe est appelée à élaborer des passerelles entre les traditions religieuses. Elle est le lieu par excellence pour reconnaître et interroger ce que, comme psychanalyste, et je reviendrai tout à l'heure, j'appelle un besoin de croire pré-religieux et pré-politique, et qui constitue les êtres humains dans leur intimité. Car sans la satisfaction de ce besoin de croire, qui est la condition de notre rencontre possible ou impossible avec une autre personne ou quelque autre altérité que ce soit, sans la satisfaction de ce besoin de croire, nous ne pouvons pas accéder au désir de savoir, qui est l'autre composante de notre identité et qui met en question justement, qui problématise, qui peut même problématiser ce à quoi je crois pour mettre autre chose à la place. Mais c'est ce duo besoin de croire et désir de savoir qui me paraît extrêmement important et qui est fait partie aussi de notre héritage culturel. Les Lumières ont parfois oublié cette dimension humaine essentielle, cette composante anthropologique qu'est le besoin de croire. Pourquoi ? Parce que historiquement, il avait la priorité de combattre les abus des croyances, de combattre la crédulité. Et cet objectif reste toujours visible et nous interpelle. Il est tout aussi important de prendre au sérieux le besoin de croire auquel certains succombent et du fait de ne pas être accompagnés dans ce besoin de croire, ils courent le risque d'être des proies à l'intégrisme. Dans ce contexte sur lequel je vais revenir pour finir en vous parlant de mon engagement avec les jeunes radicalisés dans nos écoles, je vais ouvrir une autre parenthèse à laquelle me conduisent mes origines et mon expérience personnelle aussi, notamment clinique. Ils me rendent tout particulièrement attentive à deux phénomènes qui mettent à l'épreuve l'Europe et son identité culturelle, puisque c'est à l'identité culturelle que je m'adresse aujourd'hui, et je ne parle pas évidemment des dimensions politiques, économiques ou autres. Quels sont ces deux phénomènes ? À nos frontières, la Russie, post-communiste, affaiblie mais décidée à réagir à ces humiliations, nous impose de revoir le positionnement européen à son égard. Sommes-nous capables de tenir compte du substrat culturel sous-jacent à cette réactivité qu'on vit souvent comme expansive, tout en ajustant nos liens diplomatiques, politiques et économiques avec la Russie et plus largement avec la dite Nouvelle Europe, en particulier celle de tradition chrétienne orthodoxe. Je vais m'arrêter 2 minutes sur les spécificités de cette religion orthodoxe et la conception de l'identité par rapport à cette identité que j'ai tracée tout à l'heure comme éprise de questionnement, de liberté et de singularité. Et l'autre phénomène qui me semble secouer cette Europe des Lumières, notre humanisme et cette universalité, cette diversité que je développais dans le premier point de mon interrogation. L'autre interrogation va porter sur l'islam. Il n'est pas seulement à l'extérieur des frontières européennes. L'islam politique est à l'intérieur et cette cohabitation culturelle interpelle tout particulièrement la laïcité française pour qu'elle se renforce en s'appuyant sur nos capacités auxquelles je crois, nos capacités d'interpréter et de traiter l'explosion de la barbarie gangstéro-intégriste. Car si nous ne trouvons pas la réponse à cette question, nous ne trouverons pas la réponse nécessaire, non pas à la survie de l'Europe, mais à l'avenir de l'Europe. car ébranlée et fragilisée, certes, je prétends que l'Europe est le lieu, peut-être le seul, qui prend au sérieux, possède et développe les moyens culturels nécessaires pour faire face au fanatisme. Je m'explique. Je vais aller plus vite sur la question de l'identité, celle qui s'est forgée avec les Lumières, avec l'humanisme des Lumières, et ce nouvel humanisme que je réclame, je professe dans mes voeux, et la variante de cette liberté individuelle que nous propose l'orthodoxie chrétienne et le monde de l'Europe de l'Est, notamment les Balkans, qui sont soutenus par cette tradition. Je vais évidemment aller vite pour donner une interprétation positive de la liberté telle que nous la trouvons chez Kant, qui définit pour la première fois la liberté non pas comme une négation ou une transgression des obstacles. Je suis libre quand je détruis le roi, ou quand je me révolte contre papa et maman, ou quand je casse une vitrine, etc. Les interdits et les lois peuvent être transformés. C'est pas seulement en les s'opposant à ces obstacles que je suis libre. La véritable liberté, nous dit Kant en substance, est un commencement. Vous serez libre quand vous vous leverez d'ici, vous commencez une autre pensée, une autre vie, et ne serez pas soumis à l'empreinte ou à la critique que vous éprouvez à mon égard. Donc l'autocommencement, l'initiative est la véritable liberté. Ce modèle optimal et moral de la liberté gouverne les démocraties occidentales. Susciter la liberté, la libre entreprise, votre opinion, l'incitation à la liberté. Arendt définira la liberté comme essence de la philosophie, et elle va placer à la base donc, de toute liberté le commencement. Elle va dire même que la banalité du mal commence par, non pas comme on l'a accusé de le dire, par banaliser le mal qu'ont fait les nazis, la banalité du mal commence au moment où, banalement, de manière très commune, on renonce à penser de manière singulière. On se soumet à ce que pensent les autres. Je ne pense plus comme quelque chose qui me recommence moi-même à chaque fois. Donc, cette naissance de nous-mêmes dans nos pensées est l'essence de la liberté telle que nous l'ont transmise les Lumières, ce qui fait que nous sommes quelques-uns à dire que la liberté en Europe n'est pas seulement essentielle, elle est naissancielle. En écrivant ça comme N-A-I-S, de la naissance, nous renaissons en voulant être libres. La question, dans cet ordre d'idées, la question de la liberté des femmes en termes d'émancipation et des droits a émergé aussi dans l'histoire européenne. Je l'ai constaté même dans le monachisme féminin du Moyen-Âge et jusqu'au jeudi amoureux de cette mystique extravagante qu'est Thérèse d'Avila, sur laquelle j'ai écrit un livre. Mais cette idée s'est cristallisée dans la Renaissance, dans les Lumières, en particulier française, puis chez les suffragettes anglo-saxonnes, diffusées aux États-Unis, dans l'universalisme de Simone de Beauvoir, qui réclamait l'égalité fraternelle des deux sexes, et aujourd'hui dans le différentialisme aussi, dont certains d'entre vous sont au courant, qui revendique même un érotisme maternel, le droit bien sûr de choisir, mais aussi de valoriser la complexité et la créativité de l'expérience maternelle en harmonie avec une indépendance professionnelle et sociale. Force est de constater que l'Europe, avec les États-Unis qui sont plus volontaristes dans ce domaine, grâce aux féministes américaines, l'Europe est quand même le continent princeps qui mène avec vigueur et lucidité, y compris et les bureaucrates de Bruxelles, comme on les stigmatise parfois indûment, a mené avec vigueur et lucidité le combat pour la dignité des femmes et pour la dignité des femmes dans le monde entier. Malgré qui sont de nouveau menacés évidemment dans la crise globalisée et par l'intégrisme. Est-ce que cette liberté, cette conception de la liberté au singulier, femmes y comprises, est la même dans tous les pays européens? Avons-nous hérité du même sens de la liberté et de la personne? Dans les pays orthodoxes, et je vais résumer très rapidement ce que je voulais vous dire à cet égard, il y a un accent qui a été mis depuis le 9e siècle, mais très nettement au moment des Lumières, alors que l'Europe s'éveillait à cette singularité, cette naissancialité de la liberté, s'est développée une tradition qu'on appelle hésychaste, c'est-à-dire être en paix, garder le silence, et qui était accompagnée par la prière du cœur, la philokalie, qui invite à une exaltation de l'intimité religieuse ineffable, à une ferveur mystérieuse et mystique, qu'on va trouver chez le Staré Zosima dans les Frères Karamazov, dans sa version la plus attrayante, mais qui s'oppose à l'entendement et qui retire la liberté dans le fort intérieur en quête d'un infini indicible. Le dogme chrétien de la Trinité, Trinité orthodoxe, aussi semble aller dans ce sens du retrait sensoriel en contrepoids au cognitif. Évidemment, les schémas que je donne ne sont pas les seuls, et je les grossis, je schématise, puisqu'il s'agit de schémas, mais c'est quand même important et ça pèse sur les mentalités lorsque se retire le sparadrap du communisme et lorsque surgit la mentalité traditionnelle. Alors, le dogme chrétien de la Trinité, dans l'orthodoxie, le Père procède le Saint-Esprit procède du Père par le Fils, Père Filium. Donc le Fils est en position de subordination vis-à-vis du Père. C'est le Père qui commande et le Saint-Esprit procède de ce Père, la paternité, pas de femme là-dedans évidemment, et ça procède par le Fils qui est donc mis en position d'être le servant du Père. Tandis que dans le catholicisme, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc il y a une espèce de mise en égalité du croyant et de la paternité. Un certain nombre de philosophes et de spécialistes de l'orthodoxie ont mis en évidence, je pense à Alain Besançon en particulier, le fait que ce positionnement de la sensorialité d'une part et du croyant comme soumis au Père conduit à une mise en valeur du domaine émotif, du domaine pathétique, du domaine sensoriel dans l'expérience qui va chercher la liberté au détriment du positionnement rationalisé d'une compétition dans le champ social. Dostoïevski, qui était très sensible à cela, parle dans les carnets de possédés, des possédés à propos de Kirillov, qui est un nihiliste, mais qui est dans le sillage du Staret Tikhon, que sa devise serait du gorille à l'anéantissement de Dieu et de l'anéantissement de Dieu au gorille. Donc, espèce de violence pathétique, sensorielle, que Solzhenitsyn va appeler paphastichi, le déchaînement des éléments, qui conduit à abolir avec Dieu tous les repères moraux, d'où un nihilisme qui est destructeur, ou alors de se retirer dans une intimité qui tourne le dos au contrat social. voyez que cette dimension est très différente de ce que nous avons dans notre société occidentale et qui, quelles que soient les difficultés, se trouve quelque part en contrepoint avec cette tradition russe qui influe aussi sur les Balkans et encourage des attitudes asociales ou dépressives. Il se trouve néanmoins que toujours dans cette partie orthodoxe de l'Europe, puisque c'est un des sujets qui vous développe aussi, la tradition orthodoxe porte aussi l'idée de la métanoïa, ce qui veut dire la possibilité de se transformer en allant de la mort de soi jusqu'à la renaissance de soi, dans une espèce d'expérience spirituelle d'une profondeur, en effet, pas au niveau de la rationalité, mais au niveau du sensible, néanmoins en dynamique résurrectionnelle, qui touche les états dépressifs et la capacité de dépasser ces états dépressifs. Et ces mouvements-là ont influencé l'existentialisme français, en particulier en passant par les travaux de Berdiaev, Chestov, etc. Donc, dans ce contexte, cependant, le communisme, qui a refoulé cette dimension et qui a conduit à des possibilités d'émancipation qui ne sont pas négligeables, mais qui ont détruit la notion de la liberté au singulier, eh bien, a poussé les femmes, et vous voyez que c'est une question qui m'intéresse quand je parle de la culture européenne, a poussé les femmes à travailler et même à commander. Et le post-communisme, qui est aussi entre consumérisme et appauvrissement, profite de l'énergie créatrice des femmes et fétichise la sexualité féminine quand il ne les exploite pas cyniquement. Et on entend beaucoup de protestations qui nous viennent, notamment au prix Simone de Beauvoir, dont je m'occupais il y a quelque temps, mais aussi dans d'autres cercles philosophique, ils nous viennent signalements de l'inconfort, plus que cela, de la protestation que les féministes dans ces pays essayent d'exprimer et qu'elles ont du mal à faire entendre. Il manque une véritable prise de conscience de la liberté au féminin concernant l'avortement, le salaire, le respect et la dignité. Il reste en souffrance partout où, et ça comprend aussi la Pologne catholique, bien sûr, et jusqu'aux Balkans orthodoxes, et sans oublier la Russie, partout où le poids des traditions rejoint le libéralisme machiste, et ceci au mépris des droits des femmes à l'émancipation du corps et de la pensée. Donc, ces observations me conduisent à aborder la dernière question, et je vais essayer de raccourcir pour m'arrêter à cette heure, à cet affrontement que nous éprouvons, nous les Européens, en France, mais aussi en Allemagne, et de manière pour l'instant un peu chimérique, les pays de l'Est, notamment la Hongrie ou la Serbie, qui se barricadent parce qu'ils ont peur, même s'ils n'ont pas eu les attentats que nous avons. Mais c'est une question qui est à l'horizon de ce que peut être une culture européenne de demain, à savoir la cohabitation avec l'islam politique, qui sème le mal radical. Alors, je ne parle pas de tout l'islam. J'ai développé un certain nombre d'idées autour de la particularité de certaines interprétations du Coran qui nous font comprendre que c'est une religion qui est plutôt du comment et non pas du pourquoi, alors que aussi bien la tradition rabbinique que la tradition de la théologie chrétienne ont mis en question, on n'arrête pas d'interpréter les dogmes. Il semblerait que le Dieu Allah, d'une certaine lecture du Coran, est moins lié aux deux autres divinités monothéistes, Yahvé ou Jésus, qu'à une divinité telle qu'elle est décrite par Aristote, à savoir le moteur de l'univers aux confins de l'univers. Ce serait moins donc une créature humanisée et en relation de père-fils avec le croyant, où la question de la femme se pose, on vient de le dire, mais une force quasiment mécanique qui ne demande pas interprétation, mais soumission. Il est vrai que Freud a déjà mis le doigt sur cette question que Abdennour Bidar, un ami philosophe, appelle aujourd'hui l'orthodoxie normative de l'islam. Il y a des règles et qui demandent obéissance et non pas mise en question. Freud le dit à sa façon, il manque une interrogation du meurtre du père et de la renaissance dans l'islam. Mais quel que soit cet apport des choses, cela n'explique pas pourquoi le judéo-christianisme, malgré sa capacité d'élucider le meurtre du père et de se pencher sur cette question, a pu vivre du mal radical, notamment sous la forme des pogroms, des croisades, du colonialisme, etc., au nom de Dieu. Et ça n'explique pas pourquoi l'islam, fut-il limité à une divinité mécanique, a pu développer aussi des courants rationalistes, des sciences et également de la mystique. Il n'en reste pas moins que cette interprétation mécaniciste pose des questions sur la place du féminin dans l'islam et aussi sur la possibilité de développer une subjectivité libre au sens que nous avons construite en Europe et dont je parlais au début. Mais pourquoi dans ce contexte de l'islam il sème le mal radical ? Je n'ignore pas les causes économiques et politiques que nous connaissons et nous pouvons y revenir là-dessus. Je vais simplement poser la question de qu'est-ce que le mal radical ? Nous devons cette notion à Kant aussi, donc aux Lumières européennes, qui, tout en ayant une vision extrêmement lumineuse de l'Europe qui se serait constituée, il voyait ça à long terme, comme un lieu de paix universelle, grâce à la compréhension et à l'échange entre libre arbitre, entre la liberté de penser de chacun, en voyant même la question de cette communauté européenne, dit-il, comme un corpus mysticum, il allait jusque-là, Kant, et notre humanisme porte cette idée-là, eh bien, il n'avait pas la naïveté de certains qui se bercent de fraternité et qui ne voient pas les causes qui conduisent au mal radical. Il disait que même dans le libre arbitre, il y a ce qu'il appelle un élément corrompu qui est capable de corrompre la nature humaine, un élément qui corrompt la nature humaine et qui trouble le jugement moral, sur lequel les forces humaines n'ont pas d'emprise. Autrement dit, le libre arbitre et la quête de liberté est une entreprise risquée. On peut, au nom de la liberté, arriver au massacre. Liberté, combien de crimes entendons ? Donc cette coprésence de la criminalité dans la liberté, quand elle n'a pas de freins moraux, est quelque chose que Kant avait déjà entrevu, d'où la nécessité de créer des codes qui sont soumis au débat public et qui, grâce à la mise en question, conduisent à une juridiction qui donne des limites aux libertés. Pourquoi ce mal radical explose maintenant ? Quelques conditions dans l'islam, je les ai dit tout à l'heure. Il y a aussi le fait que la personne dans les non-banlieues et compte tenu des difficultés de l'intégration se trouve désocialisée et dans un cadre familial déstructuré, livrée à elle-même, à tel point que le « elle-même », l'unité, cette singularité de la libre personne dont nous parlions au début et qui est une fruit de notre compréhension occidentale, européenne de l'Europe, n'a pas la capacité de se construire. Ou quand elle se construit, cette libre personne qui est capable de calculer, d'avoir un métier ou même de tirer à la Kalachnikov, cette construction est une sorte de sparadrap devant, sur une intimité qui elle-même est dépourvue du code moral qui construit un libre arbitre en contact avec l'autre. Donc, c'est cette fragilité de la construction humaine qui se profile dans les crises économiques, sociales, familiales et en confrontation avec ce que les religions ont de plus déstructuré ou ouvrant à la violence. Alors, est-ce que nous sommes dépourvus de d'emprise ou dépourvus de secours vis-à-vis de cette tentation qui, paraît-il, et nous le constatons, cette violence qui est coextensive à la liberté jusqu'au bout. Je veux ça et si tu ne le veux pas, je te tue. Moi, Kant recule devant la possibilité que nous avons de faire face à cette violence qui habite l'être humain. Il dit seul Dieu en possède les clés et il renvoie donc à une instance transcendantale qui serait la morale, mais qui va l'inculquer lorsque la capacité humaine elle-même est détruite et elle est incapable de concevoir des règles morales, ou alors il dit il faut simplement savoir se dominer. Eh bien, je pense que nous avons, et c'est la dernière partie de ma réflexion, nous avons en Europe aussi développé à la suite de l'universalisme des Lumières les descendants de cette idée grecque ou judéo-chrétienne de l'universalité de la pensée humaine dans sa singularité, c'est-à-dire les sciences de l'homme et de la société. Et dans ces sciences de l'homme et de la société, en particulier à travers la psychanalyse que j'étais amenée à embrasser à travers mon parcours dont je vous ai fait quelques dessins jusqu'à maintenant, à considérer que c'est elle qui nous permet d'entrer en l'unisson avec les crises que subissent certaines personnes et leur permettre, y compris lorsqu'ils sont en proie à ce mal radical qu'est l'extermination des autres, leur permettre de retrouver une identité. Parce que la décomposition dont il s'agit, et Kant dit que l'élément corrompu de la nature humaine se présente, cette décomposition des capacités de l'individu d'assumer et d'interroger des règles morales, on la constate aujourd'hui de manière plus immédiate chez les adolescents. Les adolescents des quartiers, les adolescents pas seulement d'origine musulmane, mais aussi de toutes sortes d'origines et qui se trouvent exposés à des crises personnelles, à de non-reconnaissance, de non-soutien, de non-intégration, lesquelles carences les conduisent à abolir en leur propre parcours la confiance en soi et la confiance en l'autre. J'appelle ça le besoin de croire et le désir de savoir. Le besoin de croire parce que, justement, ils ne peuvent investir personne et personne ne les investit. Le terme investissement est un terme de Freud et il insiste beaucoup là-dessus. Et mon maître benveniste a trouvé la racine de ce terme d'investissement. J'investis en vous parce que je pense que vous me suivez, vous investissez en moi parce que vous avez le sentiment qu'on peut discuter et on a un lien possible entre nous. Donc cette capacité d'investissement serait le propre et le degré zéro du lien. Et Benveniste a trouvé que le terme latin credo se retrouve dans les textes sanscrits et dans la racine sanscrite cred, qui veut dire je te donne mon cœur et tu me donnes une promesse de continuité, de vivre dans le temps. Donc c'est quelque chose qui est inscrit dans l'héritage traditionnel des spiritualités et que Freud reprend dans un contexte non religieux, mais dans un contexte d'accompagnement et de renaissance des êtres en souffrance. Notamment, pourquoi l'adolescent est plus exposé à cette destruction de la capacité de croire ou à son investissement dans des idéaux mortifères? Parce que contrairement à l'enfant, qui est un, Freud nous dit, un joueur qui n'arrête pas de se poser des questions, qui est, dit-il, même un chercheur en laboratoire, il essaye de savoir d'où viennent les enfants, il pose des questions. Contrairement à l'enfant, l'adolescent se pose à ses parents, il veut sortir de la communauté, il n'a plus besoin du soutien génétique et familial, et il essaye de dépasser ce dont il est issu. Et dans ce dépassement, il choisit des idéaux dans lesquels il croit dur comme fer. Alors que l'enfant est un joueur et un chercheur laboratoire, l'adolescent est un croyant. Si vous regardez l'histoire du roman occidental ou de la poésie occidentale ou du théâtre occidental, Adam et Ève, Dante et Béatrice, Roméo et Juliette sont des croyants. Ils croient dur comme fer dans le paradis. Et quand cet idéal ne peut être atteint, ils essayent de se révolter, mais la révolte n'est pas construite en termes moraux. Elle se construit en termes pathétiques, passionnels, comme une destruction. Des conduites de destruction de soi en suivent, la toxicomanie, l'anorexie, le vandalisme. Ces positions conduisent sur le plan idéologique à un nihilisme, pas d'idéaux, je ne veux que me sauver et je peux me sauver avec des idéologies qui sont mortifères, mais à ce moment-là, je n'ai pas le sens du mal que je fais. Je suis dans un état hallucinatoire auquel, d'ailleurs, s'ajoute, dans le cas des islamistes et djihadistes, l'usage des drogues, etc. Donc, ces états de décomposition qu'un psychanalyste français appelait des états de déliaison, pas de liaison entre moi et l'autre, et pas de liaison en moi entre mes passions et ma cognition, avec les codes moraux et avec mes désirs, mes avidités, mes besoins de satisfaction, tout ça étant en explosion, nous pouvons les accompagner et nous pouvons conduire ces jeunes à trouver une dignité d'abord en eux-mêmes et après à choisir leurs adhésions à tel ou tel corpus idéologique, à telle ou telle religion, sans que ça devienne une guerre de religion et de discrimination. Pour vous donner un exemple, et je termine là-dessus, j'ai fait un livre qui s'appelle « Cet incroyable besoin de croire », que je professais à Paris 7. J'ai été invitée avec un groupe de non-croyants, parce que ça aussi c'est un héritage de la culture européenne. L'agnosticisme, la laïcité qui tolère les autres religions et qui s'appuie sur aussi ceux qui ne croient pas. J'étais invitée à la rencontre entre les religions et les non-religieux pour la première fois par le pape Benoît XVI. Et à mon retour, nous avons pris un certain nombre de démarches pour discuter avec les différents représentants des communautés religieuses, mais surtout j'ai déplacé mon séminaire sur le besoin de croire à la cité universitaire, à l'hôpital Cochin, à la cité des adolescents, qui est la Maison Verte, boulevard de Port-Royal, qui a été créé par Madame Chirac et qui accueillait auparavant des anorexiques, des toxicomanes, des suicidaires, qui accueille maintenant des jeunes en état de radicalisation. qui arrivent en burqa chez eux, qui pianotent sur Internet pour partir et s'opposer à leurs parents qui soit ne sont pas croyants, soit sont infidèles et ne correspondent pas à leurs idéaux, et qui sont déscolarisés, et les parents, aussi bien des enseignants, nous les adressent. Donc nous essayons non pas de leur faire un enseignement religieux, mais nous essayons de les reconstruire, de leur donner de confiance de soi, de dépasser cet état de déliaison qui les conduit à des extrêmes et à ne professer que ce mal radical qu'est la destruction d'autrui, et à partir de là, de les laisser libres à choisir leur adhésion qui est questionnable, qui est partageable si c'est un corpus religieux qui leur convient. Donc je vais m'arrêter là-dessus pour vous dire que l'idée de la culture européenne, si nous essayons de l'aborder sans la fuir, et vous voyez, j'ai essayé d'en donner une complexité qui elle-même n'est pas exhaustive, mais qui est déjà assez, qui demande beaucoup d'investissement pour être à la fois comprise et accompagnée, eh bien cette complexité européenne est quasiment abandonnée pour le champ politique. Vous constatez que les politiques n'en parlent pas, ils ont peur d'en parler. Et en arrivant ici, dans le taxi, le chauffeur de taxi a écouté ce qui se passe entre les différents partis, et il m'a cité une phrase de Maréchal Le Pen, que je n'ai pas l'habitude de suivre, mais qui l'avait impressionné et qui lui avait dit, en réponse au fait que nous sommes contre la propagande du Front National qui veut quitter l'Europe et que nous leur demandons de rester en Europe, etc. Et il aurait dit, peu importe si je paye en francs ou en euros, si je dois payer la burqa de ma fille. Donc l'État qui hante la culture européenne, c'est l'État d'une peur vis-à-vis de la non-résistance de notre culture européenne, vis-à-vis d'un fantasme d'envahissement de l'Europe par l'islam. Est-ce que nos politiques sont capables de faire face à cette situation? Rien ne le dit. Ils font quelques démarches qui, paraît-il, d'après les rapports récents qui ont été proposés à cet égard concernant la radicalisation, ne sont pas fructueux. Ceci dit, il y a des démarches, il y a des capacités, aussi bien au niveau des thérapies que dans le milieu hospitalier, que dans le milieu associatif, où la rencontre avec cet islam politique est possible sans peur, avec compassion, solidarité et investissement. Et je pense, pour finir, que pour pouvoir aborder cette complexité dans laquelle nous nous trouvons et voir aussi les lacunes de notre conception, mais aussi nos potentialités de faire face, il nous faut créer une académie, comme nous sommes ici dans un milieu académique. Je pense qu'il faudrait élargir les choses, académie des cultures européennes, dans lesquelles toutes ces questions, dans leur diversité, peuvent être posées, avec des représentants, pour commencer, des différents pays européens, qui verraient les choses à partir de leur expérience propre, historique et actuelle, et qui seraient ouverts, évidemment, à la rencontre avec les autres continents et les autres cultures. Et cela me paraît être une nécessité pour que les questions que les spécialistes commencent à voir et les accompagnements que les spécialistes peuvent faire de ces limites et ces vulnérabilités de l'espace européen puissent devenir un objet de parole et de parole partagée par le plus grand nombre. Merci de votre attention.